voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émissions radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Jacques Delozo partage avec nous son profond respect pour la terre et les sols. Après avoir repris un domaine en conventionnel, il a fait le choix de se convertir au non-labour et à l'agroforesterie. Il associe l'agriculture biologique et polyculture-élevage. Je vous emmène à la rencontre de Jack, véritable citoyen engagé. Quand on arrive ici, on a fait le tour de la maison et on a vu là sur le compteur refus légal de l'implantation du Linky.
Oui, refus légal. Donc c'est parce que mon compteur fonctionne. Donc je vois pas pourquoi il viendrait me le changer. D'autant plus que sur mon contrat, je ne sais même pas s'ils vont me garantir 50 Hz. 50 Hz, c'est la fréquence de cette énergie électrique. Et c'est quand même un compteur qui est assez douteux au niveau des champs électromagnétiques. Comme on ne nous explique pas tout, on nous ment énormément. Moi, dans le doute, je préfère qu'il reste chez eux et qu'il me laisse son compteur. D'ailleurs, je suggère à tout le monde d'éteindre la télé et d'arrêter de lire les journaux parce que c'est que des mensonges. À part le résultat des derniers matchs de foot du week-end dernier, là, c'est peut-être une vérité. Mais tout le reste, c'est que du mensonge. Il faut aller chercher sa vérité, il faut aller chercher son information. Il suffit d'écouter tout ce qui n'est pas officiel. Il faut aller chercher son information. Il ne faut pas attendre que les gens vous donnent l'information.
Donc, Jack Delozo, on est chez toi, sur ton terrain, une maison, autour de nous, des arbres, des animaux, des chevaux, on a vu un loup. Donc, on va prendre le temps de te rencontrer, de savoir un petit peu qui tu es. Donc, je vais commencer par ça. Jack, parle-moi de toi et de ton itinéraire de vie et de ce qui t'a amené à être ce que tu es devenu aujourd'hui.
Pour faire court, je suis un fils d'agriculteur, des grands-parents immigrés italiens. Je ne dis pas merci à la guerre, mais finalement, ça fait partie du processus. Hein. Donc, mes grands-parents ont migré ici, ils étaient jeunes. Mon père était agriculteur, ainsi que mes grands-parents côté maternel. Donc, on a perpétué ce métier-là. Quand mon père m'envoyait notamment, pour vous donner une image, labourer, d'abord, ça m'ennuyait, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il y avait une odeur qui se dégageait de labour, qui était quand même assez, assez belle, assez intéressante. Et sans comprendre pourquoi, je me demandais, mais si ça sent bon comme ça, c'est quelque chose qui s'évapore. Mais sans comprendre, ça s'arrêtait là, ma réflexion. Parce que dans les écoles, avec ces fameux diplômes, on ne nous explique pas ces choses-là. On ne nous explique pas l'agronomie du sol, comment fonctionne un sol. D'où cette odeur. Et avec le temps, et en me rapprochant des arbres, je me suis rapproché de l'agronomie, par les racines, par le biais des racines. Et c'est le minimum des connaissances que devraient avoir tous les agriculteurs. Comment fonctionne un sol? À partir de cet instant-là, c'est une révolution.
Parce que là, on n'apprend pas à comprendre et à connaître le sol, on apprend à l'utiliser pour produire.
Voilà. On n'essaie pas de comprendre le sol pour l'utiliser à des fins économiques, proprement dites. On essaie de fusionner avec ce qu'on ne voit pas, donc ce qui est dans le sol, de façon à avoir un capital... Donc un capital humus qui va permettre d'avoir du, je vais pas dire rendement parce que c'est pas un joli mot, mais du résultat sur la surface du sol. C'est plus les termes qu'on emploie dans la grande agriculture. Alors les rendements c'est important, mais c'est ce qui est le plus important, c'est la qualité de ce qu'on va produire. Parce que on vit en mangeant et la santé dépend de la qualité de l'aliment. Donc, on le voit tous les jours, les hôpitaux sont pleins, il y a une raison à cela. Et notamment, la nourriture fait partie des critères importants pour avoir une bonne santé.
Mais ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qu'on observe dans la société civile, c'est qu'on est en train vraiment d'être dans cette société hors sol. On n'a plus du tout conscience de là où on vient et on sait encore moins là où on va.
Oui, ça c'est notre question. C'est une question beaucoup plus... dans tous mes propos, il n'y a rien de religieux. Hein. Mais je parlerai de philosophie et d'état d'esprit. Quand on aura compris qu'on nous guide et on nous a mis sur des rails pour des raisons bien précises, là peut-être on va commencer à s'éveiller un peu et à comprendre comment fonctionne l'environnement. Donc on fait partie de ces éléments-là, de cette nature, de cette biologie. On a les mêmes éléments dans notre corps. Donc si on veut fusionner, si on veut être plein de santé, si on veut vivre assez vieux et en pleine forme, il va falloir respecter cet élément-là. Donc quand vous sortez d'un système de production pour des raisons économiques, forcément, on devient, allez, le mot n'est pas joli, mais lobotomisé. C'est-à-dire qu'on a des œillères et on suit un critère bien établi qui est bien installé depuis très longtemps et qui va vous demander du rendement pour avoir de l'argent pour pouvoir vivre. C'est complètement faux. Ça paraît vrai, mais c'est faux. L'argent, ça se mange pas, de toute façon. En produisant moins, on peut manger mieux et vivre plus longtemps. De toute manière, vous vous déplacez et vous observez l'état de santé, l'état physique des gens. En campagne encore, il y en a moins. Vous partez en ville, vous vous asseyez, vous regardez, vous observez. Il n'y a que des surpoids. C'est pas méchant ce que je dis, je constate. C'est ce que j'observe. Et l'agriculture fait partie de cette observation, de ce qui se passe en environnement. Je pense surtout à ce système de sous-bois, où vous avez de belles odeurs quand vous trempez les mains dans cette litière, qu'on essaie de remettre dans nos sols par ces techniques et ces pratiques agroforestières, techniques culturelles, couverts végétaux. Donc on a quelque chose qui fonctionne correctement. Dans l'alimentation humaine, c'est complètement à l'envers. Alors, je ne sais pas quels sont les intérêts des uns et des autres.
Donc toi, Jack, tu parlais de rails. Hein. On nous met un petit peu sur des rails. On souhaiterait que tout le monde suive la même direction. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ton itinéraire, tu as choisi de prendre les chemins de traverse?
C'est l'arbre. Mon état d'esprit. Alors, je parlais de psychologie, d'état d'esprit. Je lance des fleurs à personne. Je fais qu'expliquer et témoigner. Je crois que c'est un état d'éveil. Tout coup, il y a eu un petit éveil, un petit truc en plus qui fait que, au lieu de regarder droit, là où on nous montre, là où on nous éclaire, eh bien, j'ai regardé sur le côté. Et en regardant sur le côté, eh bien, je m'aperçois qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Et on reste libre de nos mouvements et de nos pensées. Et ça, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Et, quand on a compris ça, cependant, évidemment, on est obligé de garder un pied sur la frontière de la légalité parce que tout est fait en fonction de règles, de réglementations et de normes. Voilà. Donc, on est obligé de garder quand même un pied sur la légalité tout en faisant un petit peu des demi-tours, des quarts de tours pour voir à côté ce qui se passe. Et on s'aperçoit que... Et en fait, ici, on serait à deux doigts. C'est toujours pour un côté économique et financier, parce qu'on a investi, parce qu'on a fait des prêts, comme tout le monde. On s'est engagé, on s'est laissé mener par cette mouvance. Et quand on a réagi, c'est quand même à un certain moment où il y avait encore des prêts et tout. Donc, on est obligé d'avoir ce côté économique qui fait quand même partie du troisième cheval du tiercé. Je m'explique, dans ma philosophie, il y a la santé, ma santé, il y a ma famille, et ensuite, il y a l'argent. Mais c'est le trois chevaux gagnants de ce tiercé. Le troisième cheval n'est pas très loin cependant, parce qu'on a besoin un peu d'argent, c'est un outil de travail. Mais si ma santé, si je n'ai pas ma santé, je ne pourrais pas ni m'occuper de ma famille, ni gagner de l'argent. Donc d'abord c'est ma santé, je mets tout en œuvre pour être le plus en forme possible, même si on a été plus ou moins oxydé par ce système que nous vivons tous les jours. Donc cette oxydation, on la retrouve en plus dans les sols, sols oxydés qui ne fonctionnent pas. Donc il faut rendre tout ça un peu plus alcalin. Et pour rendre les choses alcalines, il faut que ce soit beaucoup plus soft, beaucoup plus light, et beaucoup moins dirigé, et beaucoup moins, violent.
Jack, qu'est-ce que c'est être en bonne santé?
Être en bonne santé, c'est dire bonjour docteur, mais ne pas le consulter. Être en bonne santé, c'est avoir un état d'esprit bien ouvert et ne pas croire... Oui, c'est surtout ça. Être en très bonne santé, c'est ne plus croire ce que les autres disent et aller vérifier soi-même. C'est ça la bonne santé.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
À plusieurs reprises, tu me parles de l'arbre. Je te demande qu'est-ce qui a fait que tu prennes des chemins de traverse. Tu m'as dit l'arbre. Développe un petit peu pourquoi est-ce que l'arbre a pris autant d'importance dans ce que tu es devenu ou dans ce que tu es aujourd'hui.
Bon, l'arbre, d'abord, c'est un végétal qui m'a déjà attiré depuis très longtemps et j'y m'y suis intéressé. Et quand on s'aperçoit tout ce que peut apporter un arbre depuis très longtemps... On a fait des armes, on a fait des bateaux, on a voyagé, on s'est chauffé, on s'est logé, ça nourrit les animaux, ça nourrit la faune, la flore, les hommes. Donc c'est rempli de vertus. Et quand on s'y approche, quand on fait un peu d'agronomie par rapport aux racines et tout ce qui se passe en sous-sol et tout ce que ça a amené à travers le sol, cette biomasse annuelle par les racines, par les feuilles, tout ce que ça a amené, tout ce capital qui nous permet d'avoir de la culture et qui date des premières déforestations qu'il y a dans le pays, on s'aperçoit que c'est un élément indispensable, vital. On parle du humus, à l'école, on vous parle d'humus complexe argilo-humique. Pour avoir de l'humus stable, qui ne va pas s'éroder ou se lixivier, il faut de la lignine ou de la cellulose. Des végétaux vous amènent ça, mais l'arbre en amène énormément à travers la nervure des feuilles, à travers les branches annuelles. Ce fameux BRF, ce bois raméal fragmenté, ce bout de branche qui ne va pas dépasser 5 cm, qui va être restitué au champ. Cette lignine qui va être dévorée par le champignon si ce n'est pas trop malmené, la parcelle. Donc, tous ces éléments sont complémentaires. Donc, grâce à l'arbre, et en plus l'évapotranspiration qui crée un microclimat. Mais c'est vaste, l'utilité qu'a l'arbre. Il nourrit par ses fruits également. Quand on se rend compte de tout ce que peut amener l'arbre, et j'en oublie, on ne peut que rester fasciné devant cet élément-là et le respecter et le remettre dans nos terres. Ça ne peut pas être autrement, à mon avis.
Et donc c'est force de cette expérience, en tout cas de cette compréhension ou de cette prise de conscience par rapport au rôle indispensable de l'arbre dans un écosystème que tu as choisi de vivre avec lui dans le système agricole que tu as mis en place.
Oui. Tout ce qui appartient à ma famille, tout ce qui m'appartient en terre, et tout a été planté en agroforesterie ou en haies champêtres. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre des arbres partout, mais il faut multiplier cette agroforesterie parce qu'on peut cultiver entre. Forcément, quand on est dans une agriculture un peu plus traditionnelle, on a l'impression que c'est un élément qui va gêner à cause des grands outils, ces gros outils. Cependant, quelle que soit l'agriculture, l'arbre a sa place parce qu'on n'est pas obligé de mettre des arbres tous les rapprochés. Elle appartient à toutes ces agricultures-là. Pour moi, l'agroforesterie, c'est remettre un élément qui va participer à la fertilisation des sols, qui va participer à l'amélioration d'un élevage bovin, ovin ou volaille, par le biais de son ombre et tout ce qu'il peut apporter. C'est un élément essentiel à la production, à la fertilité, à la biomasse, et au respect de la nature et des hommes, qui font partie intégrante de cette nature. Il n'y aurait que deux règles à mettre en place. Hein. Tout ce qu'on peut nous raconter en politique ou que ce soit, on peut le mettre de côté. Deux règles à respecter, et deux seules règles. Les gens font comme ils veulent. C'est respect de l'environnement, et comme ils oubliaient que l'homme faisait partie de cet environnement, respect des hommes. Si vous respectez la nature, et si on respecte l'homme, la nature, la faune et la flore, hein, si ces deux règles sont respectées, c'est magnifique. Tout se passera bien.
Il faut les redéfinir, parce que respect de l'homme, respect de la nature, c'est des termes qui sont vastes finalement. On a l'impression qu'en triant sa bouteille et en la mettant dans la poubelle plastique, on va respecter l'environnement, mais c'est bien plus que ça.
Oui, c'est plus que ça, parce que l'histoire de la bouteille, elle ne devrait pas exister déjà en plastique, donc on n'aurait pas besoin de la trier. Il y avait du verre jusqu'à présent qui est renouvelable à l'infini, donc pourquoi on n'a pas pris de bouteille? Mais c'est une question de logistique. Mais le problème, c'est qu'on pense avoir que, et je ne fais pas de politique encore une fois, je ne fais que constater qu'on a l'impression d'avoir un gouvernement qui gouverne, mais on a surtout des lobbyistes, on a des grands financiers, on a des grands industriels qui ne peuvent pas nous prendre des couillons, quoi, on sait qu'ils sont là. Donc c'est un éveil collectif qu'il faut. Le mouvement, il se fera, ou peut-être pas le mouvement, mais la réaction se fera par rapport aux citoyens. Tant que les gens, tant que les consommateurs ne comprendront pas ça, et tant pis s'ils ne veulent pas comprendre, ce n'est pas grave, parce qu'on ne va pas en guerre. Hein. Les manifestations, je ne suis pas tellement pour. Par contre, je suis pour aller manifester pour quelque chose, mais jamais contre quelque chose. Toujours pour du positif. Donc, ce que je fais dans cet état d'esprit-là, c'est que je fais au mieux chez moi. Je témoigne quand il le faut. Quand je n'ai pas envie d'aller voir des manifestations, ben, j'y vais pas, parce que des fois ça me gave, parce qu'ils se racontent beaucoup de... N'ayons pas peur des mots, beaucoup de conneries. Donc on répète, j'écoute, je vois, et j'observe qu'ils se racontent 10, 15, 20 fois pendant 10, 20 ans les mêmes choses, sans que ça bouge. Donc à un moment donné, chacun a travaillé à son allure. Donc le mieux, c'est de faire très bien chez soi et au mieux.
Tu me disais avant dans la cuisine, on parlait du mot pas la colère, je sais plus comment on l'a formulé, mais c'est vrai quand on est conscient de certaines choses, qu'on essaie dans son quotidien d'incarner quelque chose qui nous paraît être juste, juste pour soi, juste pour les hommes et juste pour l'environnement, et qu'on voit que la société tout autour est complètement hermétique à ce message, on aurait envie de le rentrer dedans.
Voilà, ça c'est la première réaction, c'est on a envie de se mettre en colère, et il y en a encore quelques lacunes, même pour quelqu'un d'averti. Par contre, la colère oxyde, c'est comme les sols. tout ce qu'on emploie comme mauvais produit va oxyder les sols et empêcher de pousser les plantes. Et on se demande mais pourquoi il y a des mauvaises herbes qui ne sont pas mauvaises et qui sont indésirables ou adventices. Mais il n'y a rien de mauvais dans les plantes. Bien heureusement qu'il y en a certaines qui poussent. Donc cette colère, elle oxyde. Et ça acidifie le sol ou la personne. Donc après, on est malade. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc comment on fait pour rendre les choses beaucoup plus soft et beaucoup plus alcalines? Il faut faire l'amour beaucoup plus souvent. Il faut manger correctement. Il faut faire des massages. Il faut se rendre compte que dans 24 heures, eh bien, on n'est pas obligé de travailler 12 heures. Hein. Que tout ça, c'est inutile. Et comme disaient certains peuples, quand l'homme blanc aura compris que l'argent, ça ne se mange pas, il respectera la nature.
Jack, j'aimerais bien que tu m'emmènes quelque part sur ton terrain, que tu me montres quelque chose, qu'on passe un peu au concret et qu'on essaie d'expliquer avec l'auditeur, recréer un peu une dimension visuelle hein, de ce qu'il y a autour de nous, en expliquant pourquoi l'arbre a son importance dans l'écosystème que tu recrées ici.
Oui, on va aller voir, on va se déplacer, on va aller voir les animaux, vaches, les brebis, on va aller voir l'agroforesterie et on va aller voir peut-être, je ne sais pas si tu l'observeras, mais depuis qu'il y a l'agroforesterie, on observe quelques oiseaux migrateurs, notamment... Le roulier d'Europe, que je ne connaissais pas, que j'ai observé cette année. Le guépier d'Europe également. Et bien d'autres qui passereaux et migrateurs qui font quelques haltes autour des arbres.
Donc je ne me trompe pas si je dis qu'en recréant des écosystèmes, on va recréer de la vie.
Affirmatif. À 100% vrai. Alors j'invite tout le monde à observer ce phénomène qui est réel. Il y a 10-15 ans, en roulant, même à 80 à l'heure, hein, on avait... Des insectes remplis en été, au printemps, des insectes remplis sur les phares et les pare-brises. Observez maintenant ce qu'il y a. Énormément moins. Vous n'avez plus besoin de nettoyer le pare-brise. Donc ça parle.
Ça parle et pourquoi? Ce serait quoi ta raison à toi, ta cause? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus autant d'insectes? Comment tu l'expliquerais?
Alors il y a énormément de raisons. Hein. On a des... Alors le plus facile, c'est de parler des insecticides à large spectre. Hein. Donc ça ne va pas détériorer ni tuer que le puceron, ça tout le monde le sait. Il y a aussi le manque de cette biodiversité et des arbres et des champêtres. Il ne manque pas que des insectes, il manque plein d'oiseaux aussi. Ça va avec. Tout est complémentaire. Vous savez, c'est juste un chaînon de la production ou de l'alimentation. On se plaint qu'il y a, je vais passer à l'extrême, hein, beaucoup de sangliers, beaucoup de prédateurs qui va détériorer les cultures. Mais s'il n'y a plus de baies et s'il n'y a plus le prédateur de cet animal-là, bien sûr qu'il va proliférer. Donc il faut que l'homme intervienne et qu'il rééquilibre. Mais il va équilibrer à un certain moment, il ne pourra pas toujours tenir. D'autant plus que les chasseurs diminuent de plus en plus. Donc ce n'est pas que je sois pour tout tuer, au bien au contraire. Moi je suis pour l'équilibre. J'interdirais même pas de tuer parce que ça fait partie du système. Mais il faut que ce soit fait proprement et dans l'équilibre, tout simplement. La chaîne alimentaire, la chaîne de production, s'il manque un élément, c'est le déséquilibre. On prétend pouvoir tout rééquilibrer, ben voilà le résultat.
J'aime bien cette notion d'équilibre et donc l'être humain qui fait partie des espèces animales, finalement, cette planète, est-ce qu'on est à l'équilibre? Est-ce qu'on est trop nombreux? Tu fais partie de ceux qui pensent que l'homme est too much, trop nombreux sur cette planète? Ou est-ce qu'on pourrait trouver aussi un équilibre avec les 6 milliards qu'on est tous à partager cette surface qui est unique?
Absolument. Évidemment, on peut vivre même avec 5-7 milliards d'individus sur cette planète, il y a de quoi manger pour tout le monde. Tous les animaux qui font réellement partie de cette planète respectent la planète. On est les seuls à la dominer, à vouloir la dominer surtout, alors que... À quoi bon? De toute façon, c'était le cœur le dernier mot. Il y a eu 5 ou 6 ou 7 extinctions depuis le début de cette formation. Donc, ce n'est pas des petits gugus de 70, 80 kilos ou 90 kilos qui vont faire le poids. Quoi. C'est clair.
Allez, on se lève. Emmène-moi quelque part sur ton terrain.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc là, parle-nous un petit peu de ce lieu, de ce terrain. Donc, qu'est-ce qu'il y avait quand tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as voulu y mettre en place? Parce que je sais qu'avant, tu habitais donc ailleurs. Il y a une quinzaine d'années, tu étais ailleurs et tu as fait le choix de venir ici. Pourquoi?
Alors, j'étais ailleurs. J'étais sur un site qui était formidable et qui est un peu plus haut. Et donc, j'avais les idées qui me trottaient, mais je n'avais pas ce fameux troisième cheval du tiercé. Et donc, l'argent qui fait partie de l'outil de travail, qui n'est pas l'objectif primaire, principal, je vais dire, mais indispensable, outil de travail. Donc j'ai vendu cette ferme pour pouvoir avoir un peu d'argent, un petit capital pour pouvoir construire et mettre mes idées en pratique. Donc j'ai racheté cette maison où on est en ce moment pour la façonner à ma manière avec un peu de moyens. Donc et c'est pas fini parce que c'est évolutif et comme on fait pas mal d'autoconstruction, il faut du temps. Ça se fait pas. Et je pense pas finir tout ce que j'ai à faire. Je pense qu'il va peut-être me falloir une deuxième vie. Je prends une option là-dessus.
Et tu disais donc pour incarner tous ces projets que tu avais, c'était quoi ces idées que tu voulais mettre en place?
Alors, une idée principale, c'est être autonome. En alimentation, la mienne est animale. Autosuffisant aussi en production végétale. Et à terme, pourquoi pas, en énergie électrique, en eau et la totale.
Cette autonomie, on entend beaucoup parler. Pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, d'être autonome ?
C'est très important parce qu'au moins, je peux gérer cette énergie dans les conséquences que ça peut avoir au niveau de l'environnement. Et puis aussi, de ne pas me faire un peu duper par des mensonges, encore une fois, et par des prix où vous avez que deux ou trois personnages principaux qui vont vous distribuer ces énergies-là. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour ma part, je préfère essayer de contrôler. J'y suis pas arrivé encore, c'est un objectif.
Donc aussi connaître l'origine de tous les produits que tu vas consommer, que tu vas mettre dans ton corps.
Exactement. Ça, c'est le principal objectif. On devient ce qu'on mange et surtout ce qu'on boit. Ce qu'on respire, on n'en est pas encore là parce que là aussi, c'est tout un débat et tout un sujet. Mais on va commencer par ce qu'on mange et ce qu'on boit.
Donc là, on voit quoi ? On voit une grange, donc tu fais de l'élevage aussi. Tu as plusieurs choses en fait sur ton exploitation.
Là, on est sur les granges élevage et stockage foin. Les premières, ça a été bâti en 3-4 ans. C'est de l'autoconstruction. On essaie de faire de la vente directe, ce qui est assez facile pour un petit cheptel bovin. Malgré qu'il y ait de la qualité, il faut quand même, c'est quand même un métier. La commercialisation de la viande ou des produits, c'est pas le tout repos. C'est moins évident sur de l'ovin où il y a beaucoup plus d'animaux. Et là, on a un marchand qui travaille avec nous. Donc, on fait moitié vente directe, moitié marchand. Et dans tout ce qui est bovin, on fait de la vente directe exclusivement. Ce qui permet d'avoir un cheptel moyen. Pas la peine d'avoir des surfaces renversantes. Si on arrive à finaliser, à mettre en place un produit fini, ce qui n'est pas sans travail, je le répète, c'est beaucoup plus revalorisant et viable.
Jack, c'est quoi ton travail ? C'est quoi ton métier ? Si je devais te mettre dans une case, tu es quoi ?
Je suis cultivateur.
Cultivateur ?
Cultiver la terre. Pas que des végétaux, pas que de l'herbe, mais des arbres aussi. Et je ne cultive pas les animaux, mais je les accompagne avec. Donc, accompagner les animaux, c'est essayer de les élever le mieux possible, malgré qu'il y a quelques lacunes. Évidemment, tout ce qui est abattage, on ne maîtrise pas. Il y a peut-être des choses à faire, mais ce n'est pas évident. Les abattoirs ferment les uns après les autres. Donc là, de ce côté-là, on n'est pas tellement aidé. Peut-être qu'à terme, ce serait de plus manger de viande du tout, mais je ne pense pas qu'on soit prêt à ça. À manger moins, mais de très bonne qualité, oui. Et beaucoup de végétaux et beaucoup de légumes.
Et alors là, quand on regarde autour de nous, c'est vrai que là, ça y est, on comprend bien qu'il y a des arbres qui sont plantés.
Voilà, alors c'est planté, ça c'est une plantation forestière, là-bas au fond c'est une plantation agroforestière, vous avez des brebis d'un côté, les vaches de l'autre. Alors c'est une partie de la matinée où il fait encore assez frais, bon vous avez tout des bêtes qui paissent, mais dans l'après-midi il va faire chaud et on voit les petits points d'ombre, surtout que les arbres font, les houppiers des arbres font de l'ombre, et c'est là que les brebis, et c'est là que les vaches vont se coucher dès qu'il va faire chaud, pour ruminer. Donc la matinée elle broute, vu qu'il fait pas mal chaud ces temps-ci, et pour finir de digérer et mâcher correctement leur herbe, elles vont se coucher et allons moi.
Tu disais, donc ici c'est une partie forestière et là-bas agroforesterie. Donc quelle est la différence entre la partie forestière et l'agroforestière ?
Alors, la partie forestière, elle est nettoyée par les animaux, elle n'est pas travaillée. Et la partie agroforestière est travaillée et cultivée. Chez nous, c'est 50 arbres à l'hectare en agroforesterie. Dans la plantation forestière, ça peut aller de 1200 à 250 arbres à l'hectare. Tout dépend de ce qu'on va planter. Et dans l'agroforesterie, ce qui est intéressant, c'est que c'est des arbres chez nous espacés de 22 mètres et plantés tous les 8 mètres. Donc on peut imaginer que dans l'absolu, si on voulait planter des tomates entre les arbres, ça ne gênerait pas la culture. Donc on peut avoir des arbres, on peut avoir des légumes, on peut avoir des fruits, on peut avoir du buissonnant, on peut avoir du pacage, mais tout est permis.
J'aimerais qu'on revienne sur cette notion du sol. Hier, Alain nous disait « sol nu, sol foutu ».
Exactement. Le sol a horreur du vide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle des mauvaises herbes. On est énervé, l'agriculteur est énervé quand ce qu'il ne désire pas, ce qu'il ne peut pas avoir, ne pousse. Mais c'est quand même assez... De toute façon, le stock en adventice, en graines adventice, il est tellement rempli dans le sol qu'on n'arrivera jamais à éradiquer. Ce n'est pas l'objectif d'éradiquer, ce n'est pas un joli mot. Donc, un sol vide, ça veut dire quand même qu'en hiver, s'il y a trop de pluie, une pluie excessive, et en coteau ou en mi-coteau, la terre végétale qui est dessus n'a plus de racines pour la retenir. Comme le complexe argilo-humique n'existe quasiment plus, qu'on est à 0,8 à 1% d'humus dans les sols, il n'y a plus cet agrégat qui est formé. Ça, c'est l'agronomie. Cet agrégat, c'est cette terre qui ne va pas se dissoudre à l'eau. c'est celle qui va résister, qui va pomper l'eau et qui va empêcher ces sols de s'éroder. Et là-dessus, vous mettez les racines le plus longtemps possible dans l'année, avec des couverts végétaux pour les cultures, ou et avec des haies champêtres sur le travers des champs, et avec de l'agroforesterie, mais le sol ne fuit plus. En plus, il va capter le carbone, donc ça va être des puits à carbone, et il va rejeter ce fameux oxygène. Ça tombe bien parce qu'on respire de l'oxygène, donc finalement, on s'entendrait très bien avec les arbres. Et eux, ils se nourrissent avec le gaz carbonique.
Et donc un sol nu dans lequel plus rien ne pousse, ça va devenir un désert, et donc ça peut avoir des conséquences dramatiques pour l'homme.
Tout le monde dit, il faut faire quelque chose, mais personne n'agit. On sait très bien qu'il y a des produits qui sont mauvais, mais on continue de les utiliser. Les gens, on parlait un peu de lobotomisation des personnes, où ils ont des œillères, hein, c'est malgré eux, c'est pas péjoratif ce que j'en vois. C'est qu'il faut qu'ils s'éveillent, c'est tout. Et ça, c'est pas méchant ce que je dis non plus, mais il faut mettre des mots sur les situations. Moi, je dis que le jour où les gens auront compris ce gros problème, ils arrêteront de suite. Il faut juste l'expliquer.
Est-ce qu'il faut expliquer ? Enfin, moi aussi, j'ai besoin qu'on m'explique. Je me rends compte que quand je traverse la France, par exemple en voiture, je vais passer par des petites routes de campagne et je vais voir des champs partout autour de moi. Il y aura un champ tout jaune de colza, un champ de tournesol, un champ, là, je vois qu'il y a beaucoup de sarrasin dans la région. Donc, c'est souvent des champs de monoculture que je vois et moi, j'ai envie de me dire « Waouh, c'est beau !» Mais en fait, ça ne l'est pas. Cette beauté-là cache quelque chose de bien plus sournois, finalement, qui est l'appauvrissement des sols. Et ça, en tant que citoyen lambda, non informé ou non éduqué sur la problématique des sols, on ne s'en rend pas compte.
Et la difficulté, elle est là dans la monoculture. On l'a vu sur les arbres, les forêts, quand il y a eu des dégâts par rapport aux tempêtes, où tous les arbres, tous les pins dans les Landes, par exemple, où ils se sont cassés. Voilà. Dans la culture, c'est pareil. C'est d'autant plus délicat, c'est parce que je ne dis pas que c'est facile de faire de la culture ou de les mélanges céréales dans les mêmes parcelles. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est qu'on n'aurait jamais dû venir sur de la monoculture. C'est qu'à l'école, on ne nous explique que faire de la monoculture. Comment faire, et ça marche. On fait des quintaux, ça prend fin, parce que les rendements sont au bout du rouleau et les prix ne sont plus au rendez-vous, donc ça coûte très cher de produire, et l'agriculteur n'a plus le revenu qu'il mérite. Dans la variété, dans la céréale ou dans l'emploi de diverses plantes sur la même parcelle, on a la chance d'avoir une entraide, un élément de production avec les couleurs, avec les odeurs. Dans les attaques d'insectes, vous avez plusieurs variétés sur la même parcelle. On en met 2 ou 3 ou 4 variétés sur la même parcelle. Donc, s'il y a une attaque sur du blé, ça va quand même se ralentir parce qu'à travers le blé, il y aura de la févrole ou il y aura du trèfle incarnat ou il y aura une autre culture qui est quand même facile avec une maturité quasiment égale. Quasiment. On arrive à limiter l'impact maladie et prédation. Et avec de l'agroforesterie où vont s'installer les auxiliaires de culture, cette prédation va être limité par tous ces auxiliaires de culture qu'on a dans l'agroforesterie. C'est quasiment un biotope qui se remet en place. Le problème, c'est qu'il ne se met pas en place en 6 mois. C'est qu'il faut des années, peut-être une carrière d'un agriculteur. Donc comme l'essentiel de l'agriculteur, c'est gagner de l'argent, parce qu'on lui a dit qu'il pouvait emprunter et acheter des jolis tracteurs, ce qui est vrai. Tout est à sa place finalement. C'est vrai. Si tu veux un joli tracteur, il faut l'acheter. Il coûte très cher. C'est les mêmes qui se gavent et qui se sucrent, hein, parce qu'il faut du gasoil pour faire tourner.
Mais c'est tout le problème de nos sociétés où on est pressé. Il faut que tout aille vite, on manque de temps, on court après le temps. Et c'est vrai que planter des arbres, ça peut peut-être effrayer beaucoup de gens parce qu'on verra peut-être pas le résultat.
Ben oui, désolé, il faut 9 mois pour faire un enfant. Faites-le en 6 mois, il va pas vivre. Hein. Donc s'il nous faut 30 ans pour faire remettre ça en place, peut-être 50 ans, parce que c'est en 50 ans qu'on a tout détruit, c'est l'après-guerre. Ce fameux poudre armement qui a fait de l'engrais, et cet engrais qui a fait ce qu'on a vu. Donc on s'est laissé mener par ce système-là, mais il faut réparer. Réparons. Mais la terre n'est pas rancunière, hein. Elle réagit de suite. Sauf que les objectifs, ils sont revus à la baisse. Par contre, la santé est revue à la hausse. Tout simplement. C'est cet éveil, quoi. C'est cet état d'esprit qu'il faut remettre en place. Ça ne sert à rien de capitaliser si c'est pour mourir et le laisser aux héritiers, à qui il va rester même pas un quart, parce que l'État a repris le reste.
Et pour le côté économique, donc toi, tu as l'exemple même de montrer qu'on peut vivre de l'agroforesterie.
J'affirme, de l'agroforesterie, ici pas que l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est un élément qu'il faut mettre en place et qui va répondre dans les années à venir, hein, 5, 10, 15 ans. Le système qu'on pratique avec ce respect de l'environnement est viable à 100%. À partir du moment où on reste quand même maître de ses moyens, et à partir du moment où on arrive à faire un produit fini. Si on évite et si on zappe les intermédiaires, ça marche à 100% avec des surfaces moyennes. Donc pour moi, il manque bien le triple ou quadruple agriculteur dans cette France. Il faudrait multiplier par 4 ou 5 le nombre d'agriculteurs. C'est l'inverse qui se passe. On fait des gros domaines. Il vaut mieux qu'il y ait 2 agriculteurs qui se trompent sur 100 que 2 sur 6. Parce que les volumes sont beaucoup plus importants. Ça, c'est dans l'erreur. Et imaginons que tous ces agriculteurs ne se trompent pas, c'est magnifique.
Merci Jack.
Avec plaisir.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.